Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend et pour vous accompagner jusqu'à minuit pour revenir sur l'actualité complète de la journée pour terminer ce week-end. À mes côtés ce soir, Gabriel Cluzel. Ma chère Gabriel, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Nathan Devers est également avec nous. Nathan, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Dans un instant, nous allons donc, je le disais, revenir sur toutes les informations de la journée à partir des moments forts que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Mais avant, Maureen Vidal est avec nous. Maureen, quelles sont les toutes dernières actualités à retenir? C'est le Flash Info avec vous.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Un durcissement des conditions d'obtention des aides familiales à partir de 2025. Il faudra passer au moins 9 mois en France et non plus 6 sur une année civile pour en bénéficier. Une annonce du gouvernement dans un décret paru aujourd'hui. Ces conditions s'appliquent également au minimum vieillesse selon le texte. L'ayatollah Ali Khamenei salue les succès de l'Iran après l'attaque sans précédent menée sur le sol israélien le week-end dernier. Pour le chef de l'État iranien, la question du nombre de missiles tirés ou des missiles ayant atteint la cible est secondaire. Il décrit un sentiment de gloire et de grandeur à l'égard de l'Iran islamique aux yeux des peuples du monde, selon ses mots. Enfin, en Formule 1, le Grand Prix de Chine remporté par Max Verstappen, le leader du championnat du monde de Formule 1, s'impose tout en maîtrise pour la première course de F1 dans le pays depuis 2019. Derrière lui, Lando Norris a terminé deuxième, suivi du Mexicain Sergio Pérez. Les sensations étaient incroyables, la voiture était sur des rails, je pouvais faire tout ce que je voulais. S'est réjoui le triple champion du monde en titre.
Merci beaucoup.
Une dernière information, Olivier, ce soir, et pas des moindres.
Ah, mais c'est gentil.
Bon anniversaire.
Ma chère Maureen, c'est très sympathique. Ça me touche énormément. Voilà, je ne savais pas que vous étiez dans la confidence. Ça fait du bien, cette petite musique festive. Merci beaucoup. C'est très, très sympathique à vous, Maureen.
Avec plaisir, Olivier.
C'est vrai que ce matin, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants qui m'avaient préparé un petit gâteau avec des bougies. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que l'actualité est lourde. On va encore y revenir, on va la décrypter, à commencer par la question de l'ultra-violence au cœur de l'actualité, l'ultra-violence juvénile au cœur de l'actualité de ces dernières heures, avec la mort de Philippe à Grande-Synthe. Vous le savez, ce nouveau drame qui, une fois de plus, met en cause deux mineurs de 14 et 15 ans. Un assassinat qui fait écho à celui de Zachary récemment, à Romans-sur-Isère, mais également celui de Thomas, souvenez-vous, c'était à Crépol. Et la mère de Romans-sur-Isère, qui a vécu de près donc, ces deux drames, Marie-Hélène Toraval, alerte depuis longtemps sur la situation. Et elle était justement ce soir chez Elliot Deval dans l'heure des Pro 2. Elle était l'invitée et elle revenait sur cette situation, sur l'ultra-violence des mineurs. On l'écoute.
Ces politiques publiques, elles sont câblées sur des quartiers qu'on jugerait ou qu'on qualifierait de quartiers populaires. Mais de populaire, il n'en est plus rien, absolument plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des quartiers communautaires, donc le communautarisme se fait déjà d'une part au travers de la religion, par le biais de la religion, ça c'est une première chose. Il se fait aussi par le pouvoir économique, c'est-à-dire le trafic de drogue, et puis un ensemble de leaders qui opèrent sur le terrain, qui sont plus ou moins jeunes, et puis cette frange de jeunes mineurs qui sont radicalement menés, mais qui sont tout à fait perméables à ces propos. Et quand vous parlez de vouloir les éduquer ou leur faire un rappel à l'ordre, mais je peux vous dire qu'ils n'ont même pas le socle de compréhension des règles qui régissent notre société pour pouvoir les comprendre. Parce que les règles qui les régissent sont les règles de la communauté.
Voilà, Gabriel Cluzel. Alors c'est vrai que c'était intéressant, nous avons eu beaucoup de réflexions, et celle de Marie-Hélène Toraval, élue de terrain, est intéressante, elle connaît très bien ces quartiers, et pour elle, le premier constat, la première raison de cette ultra-violence des mineurs, elle vient finalement du communautarisme dans les quartiers et tout ce que ça engendre. On l'entendait, trafic de drogue, avec la figure finalement du voyou, du bandit, qui devient un repère pour les plus jeunes.
Oui, vous avez raison, mais je pense que la violence des jeunes, on peut l'analyser par la conjonction de deux phénomènes. La première, oui. C'est le dynamitage de nos propres mœurs, de notre référentiel moral, le bien, le mal, tout cette construction, hein, si vous lisez Norbert Elias, qui a contribué à la dynamique de l'Occident, cette espèce de corset, d'autocensure, qui a été intériorisé dans nos pays. Et puis, parallèlement à cela, ça a vraiment été dynamité ces dernières dizaines d'années, depuis les années 60, peut-on dire. Et puis, c'est un peu comme si on avait fait table rase, d'ailleurs, pour permettre place nette, comme diraient certains, pour accueillir d'autres mœurs. Sont arrivées des populations avec des mœurs différentes qui parfois fuyaient des sociétés avec des rapports sociaux plus violents. Et c'était précisément cela qu'ils fuyaient, mais néanmoins, en arrivant en ordre, eh bien, ils ont, pour certains d'entre eux, reconstitué ces mœurs sur notre territoire et d'une façon très communautarisée, qui fait qu'ils échappent à toute forme de perméabilité avec nos propres mœurs, auxquelles en plus nous ne croyons pas. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous les avons éradiquées, donc c'est difficile de leur demander de les adopter aujourd'hui. Et ça fait vraiment un cocktail explosif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères, plus d'autorité, plus de bien, plus de mal, et on voit le résultat, c'est assez terrifiant de fait.
Au fond, nous n'avons plus de base culturelle, de base morale commune aujourd'hui en France, ce qui explique finalement cette fracture au sein de la jeunesse aujourd'hui, et pour conséquence donc cette ultra-violence.
Je pense d'abord qu'il y a une question qui est un problème de perspective. On a vu ces derniers temps des faits tous aussi tragiques les uns que les autres, tous aussi terribles, tous aussi monstrueux. Je ne relativise absolument pas. Je ne pense pas qu'il faille, à partir de ces faits, faire un diagnostic sur la totalité de la France, mais qu'il faut prendre les statistiques. Alors je lis le Figaro de ce matin qui faisait un petit article sur la violence des jeunes avec le préfet de Paris, qui rapportait par exemple qu'en région parisienne, la part des jeunes dans la délinquance n'a pas augmenté, même je crois diminué d'1%, ou en tout cas à peu près stable, sur les 2-3 dernières années.
Il dit quand même que le phénomène augmente, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
Oui, il dit que le phénomène augmente, il fait un tableau compte. C'est pour ça, c'était le deuxième point. Le deuxième point, c'est que je ne sais pas ce que veut dire la jeunesse. En sciences sociales, ce n'est pas un concept qui existe. Évidemment, la jeunesse.
Parlons des mineurs. D'un point de vue juridique, par exemple.
D'un point de vue juridique, on peut dire moins de 18 ans. 18-25 ans, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, à quantifier. Et puis même, si on parle des gens qui sont mineurs, c'est pas une catégorie sociale. Il faut voir certaines jeunesses qui peuvent avoir plus tendance à commettre certains types d'actes de délinquance. Je pense qu'il faut être très précis dans ces choses-là. Et à partir de là, je pense qu'on est obligatoirement reconduit à un diagnostic qui est multifactoriel. Alors évidemment, on peut parler des parents qui sont souvent peu présents, ou d'avoir des familles qui sont décomposées, ou d'avoir des enfants qui sont éduqués par un seul parent. On voit que c'est souvent surreprésenté dans les cas de délinquance, notamment des émeutes qui avaient suivi la mort de Naël. On peut évidemment parler aussi d'un autre aspect qui est central et qui est structurel pour le coup, c'est le trafic de drogue. Je crois que un acte de délinquance sur deux ou deux sur trois, je ne sais plus la statistique exacte, est lié au trafic de drogue. Et là, évidemment, on a un aspect qui est structurel et sur lequel on peut plus facilement travailler dans le diagnostic, parce que c'est pas seulement un acte isolé, ce sont des systèmes qui sont faits pour pousser à la violence. Dans le cas du trafic de drogue, à mon avis, on assiste à quelque chose qui est très simple, c'est construction d'autorité mafieuse qui enrôle la jeunesse, c'est l'armée de la misère, hein, qui enrôle la jeunesse dès l'âge de 13, 14, 15 ans, en leur proposant un salaire, en leur donnant, entre guillemets, un cadre de travail. En tout cas, ça donne l'impression de fonctionner ainsi, et avec un recul de l'État sous toutes ses formes. Recul de l'éducation nationale, recul de la justice, recul de la punition, bien sûr, mais recul de l'État sous tous ses aspects.
Et recul des parents aussi.
Oui, je l'ai dit, les problèmes parentaux aussi.
Alors la question de l'ultraviolence, on en parle notamment après ce drame à Grande-Synthe, dans le Nord, la mort de Philippe, des policiers qui sont d'ailleurs arrivés en renfort dans la commune, puisqu'il y a eu une nouvelle agression dans la nuit de vendredi à samedi. La victime est cette fois un adolescent de 15 ans. Le cousin de l'un des deux mineurs mis en examen dans l'assassinat de Philippe. Alors, selon la procureure, il n'est pas encore possible de conclure de façon fiable sur le mobile. Mais le maire de la commune, Martial Beillart, a pris la parole dans un communiqué. Il a appelé au calme. Il ne veut pas d'un sentiment de vengeance parmi la population. Alors, cela dit tout de même quelque chose du sentiment qui règne ces derniers temps, et notamment à Grande-Synthe. Kevin Bossuet, professeur d'histoire et géographie en banlieue parisienne, que nous connaissons bien, réagissait dans Midi News chez Thierry Cabanne cet après-midi.
C'est terrible, puisque on a l'impression que de plus en plus, la violence physique est en train de devenir l'instrument de la régulation sociale. Plus personne ne croit, ou de moins en moins, en la justice, aux institutions. Et finalement, quand l'État est aussi affaibli, quand l'ordre républicain est aussi affaibli, il y a un autre ordre qui le remplace.
Est-ce que cette ultra-violence, au fond, elle est aussi liée à une justice aujourd'hui faible, notamment avec les mineurs, on en a beaucoup parlé aussi.
Oui, alors déjà, le maire de Grande-Synthe a changé de discours, vous l'aurez noté, parce que il parlait du vivre ensemble, de sa ville qui se portait merveilleusement bien. Je crois même que quand Éric Zemmour, je ne sais plus, c'était il y a un an, avait parlé de l'insécurité à Grande-Synthe, il était monté sur ses grands chevaux, et là, visiblement, il a l'air inquiet lui-même de ce qui se passe dans sa ville. Mais c'est la suite logique, évidemment, parce que au bout d'un moment, quand les Français en auront assez des marches blanches, ils rentreront dans une colère noire, si vous me permettez cette expression. Ouais. Et cela tombe sous le sens, parce que là aussi, on peut remonter à la constitution de notre justice et de la façon dont elle se rend. Ce sont les citoyens français qui délèguent ce pouvoir de justice à l'État. Et ils acceptent si c'est une forme de contrat social. Si l'État rend la justice, eux-mêmes ne rendront pas les coups. Mais si l'État ne rend plus la justice, eh bien c'est tout à fait logique qu'il se passe le phénomène inverse, c'est que les Français se disent, il faut donc que nous fassions justice nous-mêmes. Ce n'est absolument pas souhaitable, mais c'est tout à fait logique. Et ils se disent, on ne va pas faire de nos enfants des agneaux immolés et puis ne pas réagir. Je trouve même que les Français, finalement, on peut le constater, sont assez patients parce que les faits se succèdent et on pourrait dire Dieu merci, mais d'une certaine façon, c'est presque incompréhensible. Et ils restent assez calmes, mais le problème est de savoir jusqu'à quand. Donc si la justice de ce pays ne se réveille pas très vite, si on ne sort pas du déni, notamment sur ces sujets, évidemment, ça ne peut que mal se terminer. La question n'est pas de savoir si ça va mal se terminer, mais de savoir quand ça va mal se terminer.
D'où l'urgence, c'est bien de trouver des mesures très concrètes et des mesures très rapides. On parle souvent de l'excuse de minorité, on l'a beaucoup évoqué ces derniers temps, c'est d'ailleurs brandi régulièrement depuis des années, mais bon, rien n'est fait. En tout cas, quelle solution mettre en place? Pourquoi pas un couvre-feu dans tout le pays pour les mineurs après 23 heures? C'est en tout cas ce que demandent les Français en majorité. Selon un sondage CNews Europe 1, le JDD publié ce matin, 67% des Français souhaitent cette mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs après 23 heures. Alors, efficacité ou mesurette, là encore, tout au long de la journée, policiers ou élus, nos invités, ont partagé leurs analyses. Écoutez-les.
Est-ce qu'il faut le faire de manière chirurgicale dans des endroits où on est confronté à de l'ultra-violence chez des jeunes? Pourquoi pas, mais ça impose derrière un dispositif particulier, puisque le couvre-feu, c'est une mesure d'exception, mesure qui a été mise en œuvre dans deux cas bien précis, les attentats de 2015 et la période du Covid. Donc, sous l'égide de l'opération Sentinelle, c'est-à-dire une opération civilo-militaire qui fait que on a également l'armée qui est présente. Est-ce que la situation dans notre pays justifie? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut rassurer la population? Bien évidemment, mais il faudrait pas non plus globaliser le problème de notre jeunesse par des faits qui sont dramatiques et qui existent, il faut pas le nier. Mais là, est-ce qu'il faut généraliser pour autant à tout le pays et sanctionner l'ensemble des jeunes, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions.
On ne va pas pouvoir continuer à supporter que des jeunes meurent de coups de couteau, que des jeunes filles se fassent agresser. Enfin, c'est juste pas possible. Donc un couvre-feu jusqu'à 23h, pourquoi pas, dans le pays de la liberté. Je trouve ça assez intéressant de voir qu'il nous faut des garde-fous pour penser que notre enfant mineur ne doit pas être dans la rue après 23h. À titre personnel, sur ma ville, je peux vous dire que si le couvre-feu est à 23h, entre 17h-18h et 23h, il va s'en passer de belle.
Alors, c'est vrai, mon cher Nathan Devers, que cette mesure d'un couvre-feu, elle est pas forcément partagé, ni même par les élus, ni même par la police, pour plusieurs raisons. Notamment, on l'entendait, cette idée de punition collective, pour qu'on punirait des enfants qui se tiennent bien, pour justement éviter que d'autres commettent des méfaits.
Bien sûr, mais le simple fait qu'on se pose la question, et qu'il y a un sondage auquel une grande partie des Français disent qu'ils approuvent cette perspective, est très significatif. On a une partie de la population qui est droguée au liberticide, et à la peur sur le liberticide. On l'a vu de manière flagrante pendant le coronavirus. On a créé ce que Mathieu Slama avait appelé une boîte à outils. On a mis des outils dans notre boîte à outils. Le QR code qu'on ressort pendant les JO, le couvre-feu qu'on ressort, faire surveiller des plages à Nice par des drones qu'on ressortira peut-être un jour ou l'autre, etc., etc. Notre boîte à outils s'est élargie. Et à partir du moment où on a des outils dans notre boîte à outils, on va dire, regardez, pourquoi ne les sortirait-on pas pour la violence chez les jeunes, pour les Jeux Olympiques, pour tel ou tel problème. Ça, c'est une première chose. Des mesures d'exception qui tendent à se normaliser de plus en plus, soit concrètement, soit ne serait-ce que dans le débat public. On envisage de normaliser le couvre-feu pour les jeunes, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse, ça ne veut rien dire. C'est pas une catégorie sociale, c'est une abstraction. Mmh. Pas plus que les bruns, les blonds, c'est une abstraction absolue. Si on parlait de la violence chez les blonds et qu'on disait on va faire un couvre-feu pour tous les blonds, tout le monde dirait que c'est lunaire. Là, c'est la même chose.
Non, parce que c'est un âge, voilà.
La minorité, c'est objectif.
Voilà, c'est objectif.
Oui, non, mais
vous avez 12 ans, vous avez 12 ans.
Laisser croire qu'il y aurait un lien entre le fait d'avoir moins de 18 ans et le fait d'être prédisposé à la violence quand on sort la nuit, c'est presque comique, tellement c'est insensé. Et j'aimerais juste, sur une dernière chose, il faut pas non plus être dans une sorte de renversement de la situation où on donne l'impression qu'il y aurait un déni général sur l'insécurité. Moi, j'observe que l'insécurité, c'est un des thèmes premiers des débats publics, que quasiment toutes les élections se jouent en grande partie sur l'insécurité. J'observe que dans toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons françaises, que dans le fait tragique que vous avez cité tout à l'heure, les deux suspects, je ne crois pas que là, actuellement, ils soient sur leur canapé en train de regarder des séries télé. Je crois qu'ils ont dû être interceptés, peut-être mis en garde à vue, et je ne sais pas exactement où ils sont, mais en tout cas, la justice fait son travail. La justice fait son travail face à l'insécurité. Qu'on puisse faire mieux, qu'on puisse peut-être avoir des réponses pénales qui soient plus adaptées, c'est une chose, mais donner l'impression qu'il y aurait un grand déni, c'est pas vrai. C'est une psychose.
Gabriel Cluzel.
Non mais précisément cette mesure qui s'entend, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi pour protéger les jeunes eux-mêmes. Quand vous avez 14 ans, quand vous êtes dans la rue après 23 heures, ça tombe sous le sens pour les parents que vous mettez vous-même en danger parce que vous n'avez pas à vous retrouver à cet âge-là dans la rue. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'il faille faire des lois pour que les parents comprennent qu'il ne faut pas laisser son enfant de 12 ans se balader tout seul dans la rue ou de 14 ans.
Ça montre.
La déconstruction et de dizaines d'années de relativisme, de laxisme où des adultes n'ont pas intériorisé le fait que bien s'occuper de ses enfants, être dans une éducation bienveillante certes mais ferme, c'est leur interdire de se balader à toute heure du jour et de la nuit comme ils l'entendent. Ça tombe sous le sens, on ne devrait pas avoir besoin de légiférer. Je suis toujours frappée de voir que les sociétés, quand elles deviennent très laxistes en amont, en aval, elles deviennent très répressives. Parce qu'à un moment, on se heurte au mur de la loi et c'est un échec. C'est comme les enfants qui tapent sur leur prof et on se dit, ah, est-ce qu'il ne faut pas mettre les mineurs en prison parce qu'ils ont tapé sur leur prof? Oui, le problème, c'est qu'ils aient tapé sur leur prof. Théoriquement, on devrait leur avoir appris en amont, qu'on dit bonjour monsieur, bonjour madame, que on ne tape pas sur son petit copain et a fortiori sur les profs. Et c'est cela qui est très compliqué, c'est cette intériorisation, c'est ce que j'essaie essayé d'expliquer tout à l'heure au sujet de l'effondrement de nos mœurs, ça, ça aurait dû être intériorisé. De la même façon pour les violences conjugales. Théoriquement, c'est très bien de mettre sous clé les hommes qui tapent sur leur femme, parfait, mais normalement, ils devraient avoir intériorisé avant qu'on ne tape pas sur sa femme. Et c'est ce grand échec-là, général, qui, me semble-t-il, est mal appréhendé. Après, je rejoins Nathan sur un sujet, enfin, où je le rejoins pas, mais en tout cas, je ne sais pas s'il considérera que je le rejoins, mais en tout cas, sur le sujet du Covid, c'est qu'on a réussi à faire des choses incroyables au moment du Covid, parce que visiblement, on avait envie de mettre sous clé tout un pays. D'ailleurs, c'était objectivement extrêmement liberticide. Et là, on se retrouve d'un pied sur l'autre à tergiverser parce qu'on ne sait pas de s'occuper de gamins. Mais si vous voulez, vous dites, mais c'est clairement, comment voulez-vous que les Français imaginent qu'il n'y ait pas autre chose qu'un manque de volonté ? Quand on avait la volonté pour le Covid, on a réussi à faire beaucoup de choses, sans doute trop. Mais là, comment se fait-il qu'on se retrouve parfaitement démunis ?
Et en 15 jours. C'est-à-dire qu'on a réussi à enfermer la France en 15 jours. Mm-hmm. Et là, on n'arrive pas à faire lever des élèves quand le professeur arrive dans la classe, ou en tout cas quand le Premier ministre dit « maintenant les élèves vont se relever, on va revenir là », eh bien, ça fait débat, oui. Alors que pour enfermer tout un pays pendant 15 jours, c'est vrai que...
Merci de parler de ça, je trouve ça tellement symptomatique. Je dois avoir 2 ou 3 ans de télé derrière moi, c'est pas énorme, mais je peux quand même remarquer. Je n'ai jamais entendu un seul débat télé sur aucune chaîne consacré par exemple à la disparition du latin. Je ne me souviens pas d'avoir participé à ça. Je pense que c'est un sujet très grave. Très grave. Non mais vraiment, les langues mortes, qu'on maîtrise moins les langues mortes, ça c'est très grave. La baisse du niveau dans un certain nombre de matières, en histoire, en français, en mathématiques, c'est des sujets très graves. Et remarquez que, je fais ce constat dans l'ensemble du débat public, réseaux sociaux compris, on parle très peu de ces sujets-là. Systématiquement, quand on parle de ce qui ne va pas à l'éducation nationale, c'est des mesures de moraline, c'est des mesures symboliques, c'est des mesures qui ne changent rien au niveau scolaire. Moi, je me fiche complètement de savoir si quand j'enseigne dans une salle, les élèves se lèvent ou pas. Et à titre personnel, ça me met presque mal à l'aise si des gens se levaient pour me saluer. J'ai pas de délire mégalo là-dessus. En revanche, je pense essentiel qu'on retravaille sur faire monter l'exigence. Ça passe par relever le statut des professeurs, améliorer les salaires, améliorer les formations, améliorer les programmes, etc., etc. Plus le ministre de l'Éducation nationale et plus les ministres de l'Éducation nationale mettent l'accent sur des mesures qui n'ont aucun intérêt. Qu'un prof soit debout, que les élèves soient debout ou assis, c'est pas le sujet.
Vous croyez pas que ça participe justement à cette exigence ?
Ouais, moi je suis d'accord. Ouais.
Mais à quel moment on parle du programme ? Vraiment, à quel moment?
Mais comment voulez-vous apprendre le latin? Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve ça éminemment triste que les langues mortes soient abandonnées. Et c'est là aussi, c'est sans doute un vrai sujet sur l'éducation nationale. Et c'est vrai, vous avez raison, on n'en parle jamais. Mais comment voulez-vous apprendre correctement si c'est le bronx général dans la classe? Oui. Or, le fait est que beaucoup de professeurs se plaignent du bruit de fond permanent, du chahut, qui pénalise ceux qui voudraient bosser et qui pénalise aussi ceux qui ne voudraient pas bosser. Parce que peut-être qu'à un moment, s'il n'y avait rien d'autre à faire, il se dirait, tiens, j'écouterai le prof. Je pourrais écouter le prof. Mais le fait de se mettre debout, c'est établir en réalité une distance avec le professeur, que le professeur n'aime pas forcément d'ailleurs. Mais néanmoins, elle est nécessaire. Il faut que le professeur se dise, bah oui, moi je suis le professeur et eux, ce sont les élèves et je l'accepte. C'est vrai, peut-être qu'on se sent vieux quand des élèves se lèvent au moment de votre arrivée. Mais il faut admettre que ça peut être nécessaire, mettre un temps de calme. Et donc, je pense que la forme est importante, c'est tout simplement pour permettre le fond. Vous parlez du latin, pourquoi on a abandonné le latin? Parce que les parents n'osent pas dire à leurs enfants, bah, tu feras du latin. Et quand on a 9 ans et demi, 10 ans, 12 ans, on ne sait pas forcément à quoi ça sert le latin. On trouve ça juste rébarbatif et on se dit, bah, j'ai pas envie de faire du latin. Et si vous n'avez pas des parents pour vous dire, bah, en fait, c'est comme ça et pas autrement, eh bien, vous n'en faites jamais. Et fondamentalement, aujourd'hui, les parents n'osent plus dire ça à leurs enfants, jusqu'à ce que l'enfant lui-même se disent, bah, finalement, ça m'a vraiment aidé, je comprends à quoi ça me sert aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une vraie pénalisation des enfants, mais qui est liée, là aussi, à un manque d'autorité, me semble-t-il.
Je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on a aussi abandonné le latin, parce que c'est pas que dans les langues mortes, mais dans les langues, j'aime pas le mot, dans les langues anciennes, il y a une pénurie de professeurs qui est énorme.
Mais c'est la poule et l'œuf.
C'est la poule et l'œuf, mais c'est aussi lié, et c'est un sujet dont on parle très peu, à la rémunération des professeurs, qui a pour le coup, en 1980, c'était 2,1 fois le SMIC, et aujourd'hui c'est plus que 1 et quelques, 1,2 fois le SMIC. Ça, c'est à mon avis une première chose. Et une deuxième chose, dans le cas du latin par exemple, c'est qu'on remarque quand même que dans les formations élitaires qui montent de plus en plus, style école de commerce, etc., la tendance est au globish. C'est même pas de l'anglais, du globish. Hein. Vous comprenez pas Shakespeare si vous connaissez le globish. Vous pouvez faire des réunions... dans une langue qui n'est ni français, ni anglais, etc. La tendance est à ça. La tendance est à un rétrécissement du vocabulaire, un rétrécissement du lexique qui est quand même très frappante, notamment dans les classes les plus dirigeantes, les plus favorisées, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un côté, un poisson qui pourrit un peu par la tête et qui se resserre sur des mesures. Alors j'entends ce que vous dites, et peut-être que vous avez raison, à la limite j'en sais rien, que par un symbole qui en soi n'a pas de signification, ça peut recréer un contexte différent, peut-être, mais je trouve ça dommage qu'on s'intéresse au symbole et qu'on s'intéresse jamais, ou presque jamais, à la réalité qui va derrière.
Revenons à l'actualité, mais c'est vrai que c'était intéressant, ce temps d'échange, notamment sur ces langues anciennes, comme vous dites, et peut-être, voilà, c'est aussi l'une des conséquences, l'une des causes, plutôt, l'absence, le manque d'exigence aujourd'hui sur cette violence, cette ultra-violence des mineurs et sur cette délinquance. Je voulais vous entendre sur cette autre actualité, cette manifestation qui a dégénéré, qui s'est passée hier, et qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup vu aujourd'hui, une indignation surtout à droite d'ailleurs, une manifestation déclarée en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril 2024, qui avait eu lieu rue de Charonne, peut-être que vous vous en souvenez. 200 personnes étaient rassemblées. Fait important, les victimes étaient pour la plupart des victimes afghanes dans cet incendie. Les manifestants étaient donc de la même communauté. Et certains manifestants qui se sont maintenus sur place sont partis en cortège sauvage rapidement. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. Il y a eu 4 individus interpellés pour des dégradations. La situation est revenue au calme assez rapidement selon la préfecture de police, mais les forces de l'ordre ont dû faire usage notamment de gaz lacrymogène. On va regarder la séquence et puis après on verra pourquoi elle a choqué. Beaucoup de vidéos de cette manifestation ont tourné, ce qui a provoqué donc beaucoup de réactions, à commencer par celle de Jordan Bardella du Rassemblement National. Voyez ce qu'il a tweeté donc aujourd'hui, manifestation afghane qui dégénère en émeute à Paris, j'en ai assez que notre propre pays soit devenu le paillasson du monde, le pays où l'on peut tout se permettre dans l'impunité la plus totale. Notre engagement premier sera de remettre la France en ordre, puisqu'il est vrai, Gabriel Cluzel, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est comment ces personnes qui sont accueillies en France, finalement, peuvent avoir un tel comportement. Voilà, c'est ça qui choque profondément et qui agace, au fond, aujourd'hui.
Mais c'est tout à fait naturel, évidemment, quand quelqu'un a été accueilli, qu'il soit réfugié ou qu'il ait un statut autre, hein, parce qu'il y a peut-être un certain nombre qui sont clandestins, qui n'ont pas encore le statut de réfugié, mais quoi qu'il en soit, ils sont invités. Eh bien, vous ne mettez pas le bazar, vous n'êtes pas violent chez celui qui vous a invité. Mais c'est simplement du bon sens et ça tombe sous le sens. Et imaginez que des Français mettent, c'est même pas imaginable d'ailleurs, mettent en Afghanistan, fasse le même genre de scène en Afghanistan. C'est, je pense qu'il serait déjà en prison, voire pendu au haïcourt. Donc c'est la preuve de la faiblesse extrême de notre État, parce que l'incendie ne peut pas être un prétexte. Des incendies en France, il y en a eu beaucoup. Et Dieu merci, les familles des victimes ou les proches ou les gens de même nationalité, hein, je ne sais pas quel était leur degré de proximité, ne sèment pas la déroute dans les rues pour autant. Donc c'est vécu de façon presque humiliante par les Français qui ne comprennent pas pourquoi pourquoi on peut laisser faire ça. Et puis, c'est des populations qui viennent de pays où les relations sociales se comprennent en termes de rapport de force. Donc, que la France laisse faire ça, ce genre de spectacle, ne laisse pas imaginer que la France est pleine de mansuétude ou de miséricorde ou de gentillesse, mais simplement que la France est faible. Et ce qu'elle est en réalité, disons-le très clairement, et par ailleurs, c'est des frais à chaque fois, puisque les forces de l'ordre interviennent, il y a des dégâts, et on ne voit pas très bien pourquoi le contribuable français pâtirait de ce genre d'événement suscité par des gens qu'il a accueillis par grande générosité. D'ailleurs, on aimerait un peu avoir l'inventaire, enfin savoir qui a été arrêté, comment ça s'est terminé.
Alors, ça fait écho à un autre tweet que je n'ai pas à l'antenne, mais que je vais vous lire, d'Algérie Football Média, qui en fait a un tweet qui a été beaucoup relayé, là encore, dans un contexte sportif de match. Et voilà ce que dit Algérie Football Média. Tu viens dans un pays, tu respectes les règles de ce pays, sinon on ne vient pas. L'Algérie est chez elle et elle dicte ses propres règles. Celui qui les accepte, il est le bienvenu. Dans le cas contraire, il est prié de ne pas venir, mais personne ne va faire sa loi chez nous.
Bah voilà ce que dit.
Et tout le monde le comprend, vous voyez, Nathan Devers.
Oui.
Vous voyez,
oui.
Et c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça qui agace finalement nombre de Français aujourd'hui.
Non, je rigole parce que moi je respecte, j'ai jamais enfreint les règles de l'Algérie, mais on ne va pas laisser y rentrer. Donc voilà. Mais non, mais je suis parfaitement d'accord. Ce sont des actions absolument, absolument scandaleuses. L'incendie qu'il y a eu rue de Charonne, je crois que l'enquête est toujours en cours.
Ouais.
Mais la piste privilégiée, c'est que c'était lié à un homicide et que le criminel était quelqu'un qui connaissait les victimes et qui était proche et je crois qu'il partageait le même appartement. Je veux dire, il n'y a aucune responsabilité, c'est pas lié. Parfois, il y a des incendies où c'est la municipalité ou l'État mal réparé un immeuble. Là, si vous voulez, il n'y a aucune revendication, premièrement. Deuxièmement, même quand il y a des revendications, je trouve toujours extrêmement indécent, quand on rend hommage à des gens qui sont décédés, surtout quand on est proche, de le faire dans la violence, de le faire dans les cris. Moi, je suis un peu de l'école Badinter. Quand on rend hommage à des morts, c'est dans le silence et dans la dignité, et certainement pas dans la violence, mais même voilà, cette attitude-là. Et en effet, c'est absolument scandaleux. Il faut que ce soit puni, bien
voilà,
sûr.
Donc c'était cette vidéo qui a fait beaucoup réagir, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il est 23h30, Maureen Vidal nous a rejoint. Je vous remercie une nouvelle fois, Maureen, pour le message de tout à l'heure. C'était tout à fait fort agréable. Voilà,
Encore bon anniversaire.
Bah, voilà, oui, si,
on va vous redire toutes les 10 minutes.
J'en redemande. Ah, oui.
Ça dure 15 jours. Hein,
bah, exactement, j'en profite. Ma chère Maureen, profitons du Flash Info. Les dernières actualités qu'il faut retenir, c'est à vous, Maureen.
La popularité de Gabriel Attal en forte baisse en avril, moins 4 points par rapport au mois de mars, selon le sondage Ipsos pour la Tribune dimanche. Le Premier ministre obtient 34% de jugements favorables sur ses actions, contre 40% pour le sondage IFOP pour le journal du dimanche. La cote du chef de l'État, elle, ne bouge pas, avec 29% de satisfaits chez Ipsos et 28% à l'IFOP. Nouvelle journée de bombardement israélien sur la ville de Rafah, alors qu'une offensive terrestre pèse depuis plusieurs semaines sur cette ville du sud de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'accroître la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours. Selon lui, 4 bataillons du mouvement islamiste sont concentrés dans la ville de Rafah. Il y a 80 ans, jour pour jour, les femmes obtenaient le droit de vote en France le 21 avril 1944. Grâce à une ordonnance prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, les femmes devenaient électrices et éligibles. C'est un an plus tard, le 29 avril 1945, qu'elles déposaient pour la première fois leur bulletin dans l'urne pour élire leur maire. Un droit arrivé tardivement en France, contrairement à d'autres pays, 1901 en Australie ou encore 1906 en Finlande.
Où en sommes-nous aujourd'hui d'égalité femmes-hommes, 80 ans après cette date anniversaire? Je vous poserai la question dans un instant, ma chère Gabrielle, mon cher Nathan. Maureen, un grand merci de nous avoir accompagnés ce soir dans Sport Info Weekend. Je vous souhaite une excellente soirée.
Un joyeux anniversaire.
Oh là là, mais voilà, ça ne s'arrête plus, c'est formidable. On vous retrouve demain dans Sport Info avec Julien Pasquet.
Tout à fait.
Eh bien, très bonne soirée, ma chère Maureen.
Bonne soirée.
À la une également aujourd'hui, cette actualité dramatiquement révélatrice, elle concerne le maire de Mions qui a annoncé sa démission. Vous avez dû voir cette information. Pourquoi ? Eh bien, à cause d'insultes antisémites, notamment Claude Cohen, qui était l'invité de l'heure des pros week-end ce matin. Il s'est exprimé au sujet de ces attaques dont il a été victime. Il le témoignait tout au long de son mandat, ce qui l'a finalement poussé à quitter son poste. Des insultes qui ont augmenté d'ailleurs depuis le 7 octobre. Écoutez-le.
Est-ce que vous avez précédemment porté plainte et est-ce que ces plaintes ont abouti en quelque sorte?
Alors, j'ai été la première fois déposer plainte parce qu'on a voulu me décapiter. La personne a été entendue 2 heures en gendarmerie, libérée, on lui a fait un rappel à la loi. C'était la première fois. Il y a eu différentes insultes. Je ne suis pas procédurier. Je considère que ma gendarmerie a autre chose à faire que perdre du temps. J'ai attendu quelques mois. Un jour, on a fait un dessin de moi, Ratatouille. C'était le rat avec tous les dessins que vous connaissez, tous les dessins qui venaient des propagandes nazies. Donc, j'ai été déposé plainte, j'ai pris un avocat. La personne a été condamnée à 3 mois de prison et ensuite non-lieu parce qu'il y a eu une erreur de procédure. On avait remis le dossier à madame au lieu de monsieur. Et puis, comme je m'apercevais que la justice ne suivait pas, dans la mesure où ces gens-là n'avaient que des rappels à la loi, systématiquement, quand j'avais des insultes, des propos antisémites, je ne voulais plus y aller. Il m'arrivait de temps en temps de dire, puisque j'en ai que 5 de plaintes ici, pour propos antisémites, j'aurais pu en déposer plusieurs. Mais vous savez, nos gendarmes ont autre chose à faire que de m'écouter, et j'ai une ville à gérer, je n'avais pas envie de passer mais vendredi après-midi en gendarme.
De quoi cette démission est-elle le nom? Je vais vous poser la question, mais avant, regardez la réaction de la préfecture du Rhône, puisque Claude Cohen s'est exprimé hier chez nos confrères d'Europe 1. C'est là où il annonce sa démission. Très rapidement ensuite, la préfecture du Rhône dit, contrairement à ce que le maire de Mions a indiqué dans les médias, aucune plainte n'a été enregistrée par les forces de l'ordre ces dernières années, et notamment en 2023, pour des insultes ou des menaces antisémites. Jamais de tels faits n'auraient été laissés sans réponse de la part de la préfète du Rhône et des services sous son autorité. On a très vite eu le sentiment, Gabriel Cluzel, que la préfecture voulait se couvrir. Il a donné des détails, c'était une date peut-être avant 2023. Là, la préfecture parle de 2023, mais on aurait pu peut-être s'attendre à une autre réaction de la part de la préfecture en disant tout notre soutien, on va voir ce qui s'est passé, nous allons prendre en main la situation. Non, on a le sentiment d'une volonté de se dédouaner immédiatement après les révélations de ce maire. Ça m'a interpellé en tout cas.
Oui, c'est vrai que c'est particulier comme réponse. C'est vraiment nous surtout nous n'y sommes pour rien. Il n'y a pas vraiment d'empathie ni de compassion pour ce maire. Il y a d'abord cette réaction de se dire oulala, venez pas me chercher des poux dans la tête. Nous n'y sommes pour rien.
Je sors le parapluie.
Mais c'est vrai qu'il parle de décapitation, c'est pas rien quand même. Ouais. Là, c'est un stade assez hallucinant. Et le maire, écoutez, comme le professeur, comme le prêtre, comme je ne sais pas, le militaire, voilà, un certain nombre de personnalités représentent l'État. Donc c'est vrai qu'un maire qui menaçait de décapitation, on peut imaginer qu'un jour il y a un passage à l'acte. Hein. Donc moi je comprends que ce maire ait eu envie de prendre ses jambes à son cou parce que c'est proprement terrifiant. Et là aussi, si vous voulez, il n'y a pas de réponse globale. Alors vous allez me dire, le préfet, il n'est pas chargé de gouverner toute la France, mais on sent bien que chacun tire la couverture à soi, mais qu'il n'y a pas de réflexion globale sur ce qui se passe, ni l'envie de dire, une enquête rapide va être faite, dans les plus brefs délais, nous allons examiner ce qui s'est passé, sachez bien que nous n'allons pas rester sans rien faire. Non, là, c'est simplement, quand je lis ça, je comprends que, à demi-mot, le maire est presque mythomane, selon le préfet. Vous voyez, c'est presque
exactement,
une accusation.
Exactement.
Vous l'avez imaginé, vous l'avez fantasmé.
Alors qu'effectivement, il est revenu en détail. Il le dit très bien. De toute façon, c'était un tombereau d'insultes. Ça ne sert à rien. Mes gendarmes avaient d'autres choses à faire. En tout cas, selon vous, qu'est-ce que cela dit de la réalité de notre société aujourd'hui, cette démission du maire?
Ça dit deux phénomènes. Et cette démission est à la croisée de ces deux phénomènes. L'augmentation de la violence contre les élus, plus 32% cette année,
ouais.
Et notamment qui frappe tous les élus, mais qui les frappe particulièrement lorsque ce sont des maires de petites communes qui sont beaucoup plus exposés, qui sont beaucoup plus, entre guillemets, à portée de baffe. Je déteste l'expression, mais au moins elle a le mérite d'être, si vous voulez, concrète, et on voit très bien ce que ça signifie. Et deuxièmement, l'explosion de l'antisémitisme, qui était déjà élevé, mais qui a littéralement explosé depuis le 7 octobre, et pas depuis le 9, pas depuis le 10, pas depuis la réplique de l'armée israélienne, mais depuis vraiment le 7, ça veut dire une sorte de réplique mimétique, de déchaînement de violence, de jubilation, de voir des juifs se faire massacrer à l'autre bout du monde. Je trouve que le maire en question est extrêmement digne dans ses déclarations. Lui qui dit qu'il n'est pas procédurier, qu'il ne veut pas embêter la gendarmerie, qu'il ne veut pas saturer les plaintes, que sa démission fait partie des nombreux marqueurs, mais ce n'est pas le premier. En fait, malheureusement, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, mais que c'est un nombreux marqueur d'un phénomène extrêmement inquiétant. La phrase « heureux comme un juif en France », on se demande ce qu'elle va devenir d'ici quelques temps. Et j'allais dire, avant que vous montriez le tweet de la préfecture, que je trouve que l'aspect qui doit quand même nous donner toujours de l'optimisme sur la situation en France, c'est que l'État tient. L'État, sur la lutte contre l'antisémitisme, tient merveilleusement. Mais alors justement, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Mais en voyant un tweet comme celui-ci, je ne dirais pas cela. Parce que là, alors je ne sais pas encore une fois ce qu'il en est factuellement du dépôt de plainte ou non, mais quand on sait que les deux phénomènes de la violence contre les élus et que l'explosion de l'antisémitisme sont avérés, que ce maire, je ne vois pas pourquoi, il n'a pas envie d'avoir un petit quart d'heure de célébrité en s'inventant une démission qui est fausse. Ouais. Donc sa situation, sauf jusqu'à preuve du contraire, correspond à un problème qui est réel et qui est très grave, que là, les services de l'État fassent preuve de lâcheté, c'est plus que problématique.
Et on verra effectivement, puisqu'il va y avoir une enquête et Olivier Gabriel.
Oui, bien sûr, mais moi je me souviens d'une époque, pas si lointaine, quand il y avait un acte antisémite, même mineur, si j'ose dire, une inscription, ou quelqu'un de visé comme ça, nommément, il y avait une levée de bouclier, il y avait des protestations, des indignations, mais ça c'était quand on se disait que l'antisémite pouvait être potentiellement d'extrême droite. Maintenant que l'antisémite ne correspond plus, surtout depuis le 7 octobre, on voit bien d'où vient l'antisémitisme, ne correspond plus à l'image qu'on en avait, et ben on voit bien que les réactions sont beaucoup moins importantes. Et là, tout d'un coup, on dit à ce maire, enfin bon, mon brave monsieur, vous n'avez pas porté plainte, qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi je crois qu'il y a eu un glissement et en très peu de temps. Je suis frappée de voir le peu de temps qui a permis ce changement de discours. Et c'est vrai que un certain nombre de gens s'en inquiètent. Hein. Moi, des gens s'en sont ouverts auprès de moi. Ils m'ont dit, moi je suis frappée de voir qu'aujourd'hui ça n'atteint plus personne. Et de fait, il y a de quoi s'inquiéter.
Il nous reste un peu plus de 7 minutes. Nous suivrons la suite, puisqu'il va y avoir une enquête très certainement concernant le maire de Mions. Nous l'entendions tout à l'heure dans le journal de Maureen Vidal. Il y a 80 ans, les femmes obtenaient le droit de vote. Tout au long de la journée, nous sommes revenus donc sur CNews, sur cette date anniversaire. Avec aussi cette question qui, au fil de la discussion, est arrivée. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'égalité femmes-hommes? Vous allez le voir. Cette question, elle a provoqué le débat cet après-midi sur le plateau de Punchline entre Maître Florence Roisse et Joseph Touvenel. Regardez.
Vous savez, moi, je ne suis pas une grande cliente de tout ce qui est MeToo et compagnie. C'est pas, je ne me retrouve pas dans ce féminisme-là du tout. Mais en revanche, je suis d'accord, par exemple, avec Sandrine Rousseau, ça va surprendre, mais quand elle parle de déconstruction, parce que je trouve que c'est important. Que les hommes soient déconstruits. Pour moi, se déconstruire, c'est justement se débarrasser des vieux oripeaux du patriarcat, vous savez, de ce côté de façon sous-jacente et intrinsèque, dominateur, l'homme blanc dominateur, vous voyez, c'est-à-dire
parce que dans les autres pays, c'est pas le cas.
Mais je sais pas, je parle pas des autres pays, moi.
Moi, j'ai l'impression.
Je parle de la France.
Là, vous nous donnez des mots.
Non, mais moi, je parle pas des autres pays, je parle de la France. Et puis, de toute façon,
moi, je pense qu'en France.
Moi, je vis en France.
Il y a des salopards partout, évidemment, mais je ne pense pas que l'homme blanc, le mâle blanc, soit en France aujourd'hui celui qui soit à l'origine de la majorité des mots.
Un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme, que ce soit physiquement ou d'ailleurs psychiquement. D'ailleurs, récemment, il y a une expérience qui a été faite et ça a démontré que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme n'étaient pas les mêmes. C'est assez intéressant à voir. Donc le respect, l'égalité des droits, mais après, je suis désolé, c'est d'ailleurs dans notre civilisation occidentale où on a le plus le respect de l'homme et de la femme depuis des générations.
Nathan Devers, voilà, la question de l'homme blanc dominateur, le mâle blanc dominateur est revenu dans le débat cet après-midi autour du plateau de CNews. Est-ce que l'homme blanc de plus de 50 ans n'est pas le bouc émissaire aujourd'hui de certaines féministes ?
Alors, vous parliez de l'anniversaire du droit de vote pour les femmes. En effet, même si ça fait maintenant partie, que ça s'est ancré, que ça fait plusieurs générations de la vie politique que les choses en vont ainsi, mais en effet, ça fait suite à des siècles, et plus que des siècles, des millénaires, où les femmes étaient exclues de la vie politique. Et quand certaines d'entre elles pouvaient être incluses, à certaines périodes de l'Ancien Régime, c'était absolument pas les femmes, c'était certaines femmes dans certains salons, etc. Où les femmes subissaient la politique, subissaient une forme de domination à tous les étages, et qui est évidemment fait partie de notre héritage français, italien, espagnol, américain. C'est pas une situation spécifiquement française, je dis des banalités. Que face à cela, quand vous avez donc d'abord un héritage, le mot de déconstruction, vous savez, c'est une idée, Derrida, avant Derrida, celui qui en pose les jalons, c'est Heidegger, par rapport à toute forme de tradition, ne pas être dupe des héritages qui sont les nôtres, surtout quand ce sont des héritages de domination. Et en l'occurrence, il y a une domination historique qui fait vraiment partie de l'histoire de l'Occident, qui a été théorisée, qui a été pensée, qui a fait partie de son ADN, et pas que de l'Occident, je le reconnais, des hommes sur les femmes. Donc à partir de là, que Madame Brouas dise que il faille avoir un recul critique et déconstruire ce qu'il reste de ces formes de domination, c'est à mon avis tout à fait louable, et c'était le sens d'ailleurs du fait de vouloir donner le droit de vote aux femmes et tous les autres droits qui ont été acquis par les femmes.
Donnons la parole à Gabriel.
Bien sûr.
Non, mais alors déjà le premier point, c'est que il faut quand même savoir que le droit de vote des femmes, s'il a été si tardif en France, parce que les Red Sox s'y opposaient, ils craignaient que les femmes votent comme leur curé. Il faut savoir que c'était pas d'ailleurs très flatteur pour les femmes. Elles pensaient qu'ils étaient sous influence de leur curé. Le pape Benoît XV, lui, demandait le droit de vote des femmes depuis 1919. Bref, donc ça, c'est la parenthèse droit de vote. Mais pour le reste, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je crois, moi, au contraire, que c'est en Occident que la femme a pu relever la tête en raison des mariages monogames par consentement mutuel. Vous savez, Clotilde, si elle a converti Clovis, elle avait sans doute parfois profonde, mais c'est aussi parce qu'elle y voyait son intérêt. Vous voyez, elle ne voulait pas, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vie de Sainte Hélène qui était mariée avec Constance Clore, elle se traînait toutes les concubines. C'était pas très drôle. Donc toutes ces reines qui ont christianisé l'Europe, ils voyaient aussi leur intérêt. Elles étaient les seules. Bon, il pouvait y avoir des maîtresses après dans l'histoire monarchique peut-être, mais dans le mariage, elles étaient seules. Et donc ce mariage monogame par consentement mutuel a fait que, bah, forcément, pour donner son consentement, il faut être un petit peu grand. Donc les femmes ont pu faire des études. Et c'est pas pour rien si, je vous renvoie aux travaux d'Anne-Marie Pelletier, si c'est sur ces terres-là qu'il y a eu les premières revendications féministes, tout simplement parce que les femmes, c'est le seul endroit, encore une fois, où elles ont pu relever la tête. Et moi, je suis très frappée de voir que, d'ailleurs, ce discours y participe, c'est peut-être pas conscient, elle l'a pas théorisé, mais ça participe d'un féminisme décolonial qui m'inquiète beaucoup. Vous savez, Ercilia Soudé dit, moi, oui, je suis une féministe décoloniale, ça lui permet de défendre après les Mollas, c'est très pratique, parce que quand même le féminisme est florissant, hein, c'est merveilleux. Et ce féminisme décolonial fait peur parce qu'aujourd'hui, par exemple, il légitime, à mots couverts ou pas couverts, hein, notamment en Afrique, je peux vous citer, j'ai des citations précises, la polygamie. Voyez, donc certains vous disent, ah oui, mais la monogamie, c'est une importation judéo-chrétienne, c'est le féminisme colonial qui l'a imposé. Alors je me dis, où ça va aller? Ça va aller après l'infibulation, toutes ces questions proprement féminines qui ont été éradiquées dans certaines contrées aujourd'hui sont vécues comme une imposition coloniale. Et c'est vrai que entendre cela, ça peut faire sourire, hein, ce qu'a dit cette dame sur la déconstruction de l'homme blanc, comme si c'était pas bien ailleurs que la femme était opprimée. Ça peut faire sourire, mais ça correspond, ça s'inscrit dans un mouvement général qui fait peur, ouais.
Vraiment. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel. Merci à vous, mon cher Nathan Devers. Soir Info Week-end, c'est terminé. Mais l'actualité continue, bien évidemment. L'édition de la nuit, dans un instant, ce sera avec Sandra Thiombo. Et puis, Gabriel Cluzel, Nathan Devers, nous vous retrouvons tout au long de la semaine sur notre antenne dans les différentes tranches, à commencer par demain, d'ailleurs, tous les deux, me semble-t-il. Donc, les téléspectateurs pourront se réjouir de vous retrouver et pour continuer, eh bien, à décrypter à analyser l'actualité comme vous le faites si bien. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite. Merci à toutes les équipes techniques. Et merci à Coralie de Leplace de m'avoir aidé à préparer cette émission. À très vite sur CNews.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.